Cet épisode a été enregistré le 22 mars 2024. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits. Playbo!
I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game.
30 équipes, 2 bureaux et 2 podcasts par jour. C'est l'épisode 28, c'est présenté par moi, Mike, et l'inventeur du cheese steak, mais sans le cheese ni le steak, parce qu'il est intolérant au lactose, Guillaume.
Non, c'est de pire en pire. Salut Mike, salut à tous.
On est fatigué, c'est la fin. Ici, on les trouve tous overrated. Du coup, bah, ils sont excellents et on passe souvent pour des cons. Bienvenue chez les Philadelphia Phillies. Marty, Bryce Harper, ce joueur overrated, champ droit, première base, c'est quoi? C'est le multivers? Non, non, Doc, c'est l'âge. Il est première base maintenant, la feignasse. Eh oui, parce que les Phillies finissent deuxième de la division. Allez, derrière les Braves, on en a parlé, 90 victoires, 72 défaites, un line-up top 10, des starting rotation, on va dire top 10 parce qu'il y a quand même quelques petits défauts, et un relief top 10, surprenant hein, pour les Phillies au vu des dernières années. Ils ont été très très mauvais au mois de mai avec un bilan à 10-16, mais en vrai, ça aurait pas eu trop d'incidents sur les irrattrapables Braves. Donc en réalité, on les a jamais sentis vraiment en danger et on les a jamais vraiment sentis capables d'aller battre les Braves. Au niveau du pitching, bah comment ne pas parler de Zach Wheeler, parce que la starting rotation, elle est cinquième en whip, en BB par nine, et puis après, c'est du 15 en air à 14 en KA, en hit, en home run, mais elle est fortement poussée par Zach Wheeler. Zach Wheeler, il est sixième au vote Cy Young, Gold Glove, il vient de s'entrer comme un des front-runners Cy Young quasiment tous les ans, parce qu'en vrai, c'est ça, c'est de ça dont on parle avec Zach Wheeler, noir à 4,3, 212 strikeout en 192 inning pitch. À noter que Nola et lui dépassent tous les deux les 200 strikeouts, et que c'est la seule équipe à pouvoir en dire autant, avoir deux starters qui dépassent les 200 strikeouts. À noter une campagne de post-season aussi de l'espace pour lui, avec une ERA 1,95, 5 game starts, pardon, 4 game starts sur 5 apparitions, 27 inning pitch, 35 strikeouts. On parle de post-season, hein. L'ami, il est présent. Au niveau du batting, bah, en fait, c'est un collectif, parce que en l'absence de Bryce Harper pour blessure sur presque 2 mois et demi, je crois, t'as un tas de joueurs qui ont pris le relais. Il y a 9 frappeurs qui ont au moins 10 home runs en 2023. Il y a 10 joueurs sur 11 avec au moins 100 matchs joués, avec une OPS plus à plus au-dessus des 100. Il y a 3 joueurs dans les votes MVP, Harper, Schwarber, Castellanos. T'as 6 joueurs à plus de 10 stolen base, dont 10 à plus de 30. C'est la seule équipe de MLB. Pourquoi tu rigoles?
Oui, parce que j'étais en train de regarder les noms et je me disais, putain, c'est 3 DH qui sont dans les votes MVP.
Mention pour la breakout scène de Bryson Stott, quand même le type de joueur du futur avec sa versatilité, avec une WAR à 4,3 et un OPS plus à 104. Donc, toujours fine-tuné. À la trade line, ils ont fait quoi? Ils ont été récupérer Michael Lorenzen starter contre Aouli, le Tiger, et puis Rodolfo Castro en infielder, des Pirates contre Bailey Falter, un lanceur. Bah, les événements marquants, en vrai, il faut qu'on se rappelle surtout d'Alex Baum après le Alec Baum et I fucking hate this place en 2022. C'est Trea Turner qui arrive en 2023, qui est en difficulté, il reçoit une ovation du public, il tourne le truc, il finit comme une roquette la saison, et il envoie un message sur un billboard 4x3 monstrueux dans la ville de Philadelphie, où il met thank you. Donc voilà, c'est encore une belle histoire au pays du cheesesteak, parce que on attend de voir qu'est-ce qui va se passer cette année. Hein. Et puis Pecota, les voyait 3e, 90 victoires, 72 défaites. Ils sont pile poil dans le prono hein, en termes de bilan. C'est juste que les Mets étaient légèrement, légèrement en dessous des prévisions. Post-season, Miami balayé, Braves écarté. Ils arrivent contre les D-backs en NLCS. On les a cru qualifiés à 2-0, on les a cru qualifiés à 3-2, et puis en fait, bah non. Le bilan en run sur la série, ils vont scorer 30 runs et en encaissé 21. Ils ont des meilleurs stats sur quasiment tous les compartiments, pitching, batting sur la série, et ils finissent par perdre. Encore aujourd'hui, quand je regardais j'ai regardé sur cette série, parce que c'est une très très belle série aussi, j'ai regardé les highlights et tous les résumés, et je ne sais pas comment ils ont perdu. Ils vont gagner 5-3 le premier, 10-0 le deuxième, ils perdent 2-1 le troisième. Incompréhensible, avec un Craig Kimbrell qui prend la défaite. Ils vont perdre 6-5 le deuxième. Donc déjà, ils perdent deux matchs à un run. Ils vont gagner 6-1, ils vont perdre 5-1, ils vont perdre 4-2. On a l'impression que tous les matchs accrochés hormis le premier, ils étaient incapables de les gagner. Les Phillies n'ont pas été clutch, et ça, c'est un problème. Mais Guillaume, quand c'est la fin de la post-season?
Eh ben, on passe en post-post-season. C'est l'off-season. Allez, 237,7 millions de dollars en 2023. 240,2 millions en 2024. C'est quasiment la même chose, same. Avec les prolongations de Nola et Wheeler, il y a 7 contrats tout de même à minimum 20 millions de dollars.
Et c'est quand même fou, excuse-moi, de se dire qu'il reste same en ayant prolongé Nola et Wheeler.
Mais c'est clair. Leurs enjeux et les attentes pendant la post-season, prolonger leur noyau pour pas cher, et puis des starters et de la défense. Donc en arbitration, ils ont gagné l'arbitration face à Alec Boehm, troisième base, et ils ont évité ensuite avec Edmund Sosa, troisième base, Ranger Suarez, starter, Jeff Hoffman, reliever, et Gregory Soto, reliever. En free agency, ils ont prolongé Aaron Nola, starter pour 7 ans. Ils ont signé Whit Merrifield, deuxième base, pour 1 an. Spencer Turnbull, starter pour 1 an. Et Coby Allard, starter pour 1 an. Ensuite, ils ont perdu Scott Kingery, deuxième base. Rhys Hoskins, première base. Francisco Morales, reliever. Craig Kimbrell, reliever. Michael Lorenzen, starter. Et 13 autres joueurs. Dans les prolongations, on n'a pas noté, mais il y a aussi Zach Wheeler qui a signé un gros contrat, une grosse prolongation de 3 ans seulement pour 120, quelques 126 millions de dollars, je crois.
Ouais, mais en fait, on n'a pas noté, mais comme il n'était pas free agent, du coup, on ne l'a pas mis, mais c'est vrai qu'il a prolongé aussi.
Non, c'est dans les extensions, c'est pour ça. En trade, ils ont fait 2 trades. Ils ont récupéré Michael Rucker, un reliever des Chicago Cubs pour du pognon. Et ils ont récupéré Michael Mercado, un reliever de Tampa Bay pour un autre lanceur, Adam Leverett. Ensuite, en blessé, ils vont commencer l'année avec 3.
Comment tu prononces son nom ?
De quoi ?
Ça rappelle vachement un autre sport, mais c'est pas grave, ça reste entre nous.
De quoi ? Scott Kingery et...
Non, non, Michael Mercado, contre qui il a été tradé ?
Ah, Adam Leverett ?
Ouais,
super. Bon, bravo. Ensuite, ils vont commencer avec des blessés. Un starter, Tyrone Walker, et 2 relievers, Dylan Covey et Michael Rucker. Leur grade pour la off-season, pas terrible, c'est C+. C'était tourné là. Alors, ils ont quand même fait un super taf, puisqu'ils ont quand même réussi à prolonger, à re-signer Aaron Nola et à prolonger Zach Wheeler. Donc, je pense que déjà, rien que pour ça, moi, j'aurais mis un petit peu plus que C+. Par contre, après, de toute façon, c'est vrai qu'ils avaient, il fallait surtout qu'ils signent les starters. Le reste, ça n'a pas trop bougé, donc c'est pour ça que ça n'a pas changé, quoi.
Ils n'ont pas fait grand chose.
En prospect, ils sont 19e en farm system. Effectivement, ils ont fait beaucoup de trades, il y a eu beaucoup de choses, donc c'est pour ça que ça a blessé. Ils ont deux gars, Justin Crawford et Andrew Painter, qui devraient remonter dans le classement par la suite. Là, en 2024, normalement, il devrait y avoir Mick Abel, un lanceur qui devrait arriver. Les autres sont prévus pour plus tard. L'effectif global, catcher, J.T. Realmuto, première base Bryce Harper, deuxième base Bryson Scott, troisième base Alec Boehm, shortstop Trey Turner, champ gauche Brandon Marsh, au centre Johan Rojas, à droite Nick Castellanos, D.H. Kyle Schwarber, sur le banc Garrett Stubbs, catcher, Edmundo Sosa, infielder, Whit Merrifield, utility, Kristen Pache, outfielder. La rotation, Zach Wheeler, Aaron Nola. En 3, c'est Ranger Suarez, ensuite c'est Tyrone Walker, mais on ne sait pas, est-ce qu'il sera? Il serait effectivement bon il devrait être bon pour le début. Apparemment, il est toujours annoncé.
Il me semble.
Et Christopher Sanchez en numéro 5, closer José Alvarado. Le bullpen, c'est Gregory Soto, c'est Anthony Dominguez, Connor Brogdon, Orion Kerkering, Matt Stram et Spencer Turnbull. On garde quoi et qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette nouvelle saison?
Wheeler Nola. Je pense qu'en vrai, et après on parlera du reste, mais le pitching staff des Phillies a été un domaine de raillerie de notre part et de la part de quasiment tout le monde pendant des années et des années. Et en vrai, force est de constater que ils ont quand même bien, bien, bien tourné le truc. Wheeler et Nola, s'ils respectent leur standard, t'as 400 innings, 400 strikeouts, 60 game start. À eux deux, c'est 28% du nombre de manches nécessaires pour faire une saison. Et avec de la qualité en plus. Donc, ah oh, oui, et puis, petit truc, hein, ça devrait être une bonne année de Nola, puisque l'an dernier, elle était un peu moins bonne. Du coup, cette année, c'est l'année Cy Young.
C'est l'année Cy Young. C'est ce que j'allais dire. Non, non, mais c'est clair que Zach Wheeler, en fait, au moment où ils le prennent, c'est sûrement un des contrats les plus team-friendly qu'ils arrivent à signer depuis les 10 dernières années. C'est un truc de fou. Le contrat, ils le prennent, Zach Wheeler. Il y avait beaucoup, justement, de franchises qui étaient sur lui au moment où il prend la free agency. Souviens-toi, c'était il y a, je crois, c'était il y a 2 ans. Et 2 ou 3 ans. Et il y avait un nombre de franchises qui voulaient l'avoir parce qu'au prix auquel ils demandaient, c'était pas possible, quoi. Et c'est les Phillies qui ont emporté le lot. Il a prouvé de quoi il était capable. Et là, il a signé enfin un vrai contrat à sa hauteur. Alors, c'est un contrat qui est un peu cher, mais ça va être que sur 3 ans. Lui, il a pas envie d'aller plus loin. Et je pense que les Phillies se disent que ils l'ont au top pendant 3 ans, c'est très bien de le payer ce prix-là. Ça sert à rien d'aller le payer plus cher pendant 4 années supplémentaires si au final ça devient mauvais. Non, Zach Wheeler, Aaron Nola, c'est vraiment les deux gros trucs. Et puis, bah, après, on va pas parler tout de suite du reste de la rotation ou du reste du pitching. On va venir sur le line-up, quoi. Le line-up.
Non, mais on peut quand même enchaîner avec la rotation parce que c'est ça qui est fou. C'est que, en plus de ces deux-là, t'as Christopher Sanchez, Ranger Suarez. Est-ce qu'ils vont réussir à step up sur le potentiel qui est prévu? Et derrière, t'as Addison Tywin Walker. Derrière, t'as Spencer Turnbull, qui est un starter en vrai, qui est projeté bullpen, qui peut arriver. Ils ont Colby Allard, ils ont Nick Nelson, qui devrait pouvoir arriver aussi. Et en vrai, sur les 5, les Wheeler, Nola, Suarez, Walker, Sanchez, c'est projeté 7, 27, 75, 77, 83. T'en connais beaucoup, toi, des équipes qui ont un gars qui est en fin de rotation, qui est projeté 83. Non, c'est un délire.
C'est énorme. Non, franchement, c'est énorme.
C'est un délire. Et en plus de ça, on peut aussi se dire que le bullpen, il est quand même pas dégueu. Ils ont des noms, des mecs assis là, les Alvarado, les Hoffman, les Soto, les Stram, qui devraient leur apporter de la qualité aussi. Donc franchement, le pitching staff, il est assez bon, il est assez incroyable. Et derrière, effectivement, t'en parlais, le collectif de ce bullpen, c'est incroyable.
Le collectif du bullpen ou de la
line-up? Du line-up.
Non, mais le line-up, de toute façon, on sait de quoi il est capable. Quand tu le disais, de toute façon, ils ont déjà trois mecs dans les top 20 MVP la saison dernière. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Tu regardes déjà Kyle Schwarber, Trey Turner, t'enchaînes avec Bryce Harper. Derrière, t'as Jeti Realmuto qui est peut-être pas forcément, c'est sûrement de toute façon le meilleur frappeur chez les catchers. C'est pas le meilleur batteur du monde, mais il est quand même projeté quasiment top 100 puisqu'il est 105. Derrière, t'as encore Bryson Stott, Alec Baum, Nick Castellanos. Tous ceux-là, ils sont dans le top 100. C'est ouf. T'as les sept premiers. Ils sont quasiment tous des top 100. Et derrière,
t'as top 50 en projection. Et je compte pas Bryce Harper parce qu'il est pas dedans. T'en as 4 de plus dans le top 100, dont il y en a un qui est remplaçant. C'est Merrifield. Il y a 2 top 30 en rotation. T'as 3 autres top 100. T'as 4 membres du bullpen dans le top 100. En fait, tout le collectif, même si on resserre sur le Harper, Schwarber, Castellanos, parce que c'est des leaders du terrain et en dehors, en fait, de cette équipe. C'est ça aussi qui est fou. En forme, c'est un trio à 12 de WAR. Tu te rends compte quand même du délire? Trey Turner, faut qu'on oublie 2023. Parce qu'il va redevenir MVP contender à un moment ou à un autre, parce que si lui il clique, ils vont être à la bataille avec les Braves. Lui, c'est des saisons à 7 de WAR qu'on veut, 7-8 de WAR, c'est ce que le gars peut faire. Donc en fait, tout ce line-up, il est incroyablement proportionné au niveau de l'attaque. Le mec qui est le moins, tu le disais, c'est Johan Horas, mais ce gars-là, il est rookie, donc on va voir si ça clique. Le frappeur 8, c'est Brandon Marsh.
Qui fait pareil. Il était présent post-season cette année. C'était hallucinant. Il a aussi frappé à des moments où tu t'y attendais pas. Non, mais, et en plus, tu sais quoi? Je vais même te dire qu'il y a un autre truc qui est hyper important et dont on parle pas forcément souvent. Le public de Philly. Le public de Philadelphie qui les a poussés, qui les pousse pendant toute la saison. En post-season, quand il y passe, c'est encore plus fou. C'est un endroit dingue à aller jouer. Alors franchement, c'est vraiment, moi, cette équipe-là, elle était forte l'année dernière, elle était forte l'année d'avant. Cette année, je la sens encore plus forte.
Bon, après, on n'a pas Dion Horas, mais de ce qu'on a eu en 2023, il était vraiment excellent. D'accord. Là, il est projeté. Il doit apporter toujours cette stabilité défensive et toute l'offense qui arrivera, ce sera du bonus en vrai, parce que le problème majeur des Phillies, c'est la défense. 23e équipe défensive en 2023 selon les Metrics, 25e en 2022. C'est l'équipe qui réalise le moins de double play de la MLB. Leur line-up, il est tellement bon et leur pitching staff aussi, en vrai, que juste une simple une légère amélioration de ses stats, en vrai, ça pourrait leur apporter un énorme nombre de victoires, parce que c'est un souci, la défense chez les Phillies, et c'est un vrai, vrai, vrai enjeu. Le truc, c'est que la off-season, est-ce qu'ils vont faire des trucs avant le mois de juillet? Est-ce qu'ils vont regretter un moment de ne pas avoir un petit peu plus dépensé, peut-être sur des nouvelles additions? Je sais pas, parce qu'en vrai, leurs deux grosses signatures, c'est quand même un remplaçant et un releveur de fin de bullpen. Donc c'est ça qu'ils ont signé, en personne de Turnbull et de Merrifield. On va voir quel a été leur choix. Et ma question, c'est est-ce que réellement ils avaient besoin de révolutionner leur effectif et de rajouter des gens en plus?
C'est exactement ce que j'allais te demander. Je trouve que c'est deux choix intelligents parce que Turnbull, tu le prends pas pour cher et puis il est capable de il sera peut-être même meilleur dans un bullpen que dans ta rotation. Donc pourquoi pas? Et Merrifield, ben putain, mais c'est une super addition à mettre sur ton banc, quoi. Le mec, il est vraiment bon, il peut t'amener des trucs. Non, il peut rentrer à plusieurs postes de toute façon sur ton infield, même en outfield, si je me trompe pas. Donc non, mais vraiment, c'est vraiment, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et t'avais déjà une ossature qui aujourd'hui te permettait d'aller faire la finale de conférence. Enfin, ils font quand même la NLCS, tu vois. Donc c'est pas non. Enfin, les mecs, ils gardent les mêmes. Ils ont fait une NLCS. Ils ont fait une saison de dingue. Ils se sont arrêtés, comme tu disais. Ça s'est pas joué à grand chose pour qu'ils aillent pas en World Series. Donc ouais, carrément. Moi, je pense qu'ils sont capables d'y retourner, quoi.
Ils ont un truc, les Phillies, quand même, c'est que en vrai, quand tu regardes le line-up, alors ça, on va certainement porter la poisse, mais t'es pas méga inquiet par les blessures, très honnêtement. Parce que Schwarber, 31 ans, Turner, 30 ans, Harper, 31 ans, Realmuto, 33 ans, Stott, 26 ans, Baum, 27 ans, Castellanos, 32 ans, Marsh, 26 ans, Rojas, 23 ans. Et la plupart de ces gars-là sont des mecs qui sont projetés à minima 500 at-bats. On sait que c'est des gars qui vont jouer, qui vont être là, souvent. Et tu rajoutes à ça Merrifield, Sosa, Stubbs, Pache. Pache, c'est peut-être pas le bon exemple, mais... En fait, tu as tous ces éléments-là, tu te dis qu'en fait, le line-up qui est projeté, c'est celui qui va jouer. Celui que tu vas avoir toute l'année. Tu n'as pas cet exemple de dire, oula, il se blesse souvent, et sur la rotation, c'est le même délire, en fait. Donc, en fait, l'une des forces des Phillies, c'est cette stabilité. Tu vois, ils ont un corps, ils fine-tune à côté, ils ajoutent 2-3 trucs, mais en vrai, là où ils sont forts, c'est ça. C'est dans cette capacité, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est toute une question de culture. Tu as parlé du public, mais. Les joueurs, on en parle de tous ces mecs-là qui signent et qui prolongent pour moins que ce qu'ils pourraient avoir dans n'importe quelle autre grosse franchise. C'est le cas de Nola, c'est le cas de Wheeler, c'est le cas d'Harper, c'est le cas de Realmuto, c'est affiché. Quand j'ai prolongé, j'aurais pu avoir plus à côté.
Oui, non, mais c'est clair. De toute façon, alors ça, c'est une autre chose dont on n'a pas parlé au moment où on s'est posé la question de savoir pourquoi ils ont fait une off-season avec juste aussi peu de moves. Mais c'est aussi un choix. C'est Dombrowski qui l'a dit. On en avait déjà parlé dans un épisode et il faut en reparler maintenant. Dombrowski a dit, on a passé des années à dépenser un maximum au niveau de Phillies. On est arrivé à un moment où ça sert plus à rien de dépenser plus. On n'arrivera pas à mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et maintenant, il est temps, en fait, de mettre plutôt nos sous dans le recrutement et de regarder vers l'avenir plutôt que de se concentrer sur... Ils pensent qu'aujourd'hui, en fait, ils peuvent... Avec ce qu'ils ont, ils sont déjà au maximum. Ce serait... S'ils dépensent plus, ils n'auront pas forcément mieux. Là, ils ont une équipe qui est entière.
Ils auront peut-être mieux, mais au péril de chambouler une hiérarchie dans une équipe, au péril de se mettre en danger financièrement et de ne pas avoir de soupape en cas de problème. En vrai, c'est ça. Oui, ils peuvent avoir mieux. Bien sûr qu'ils peuvent avoir mieux. Ils peuvent avoir Betts, ils peuvent avoir qui tu veux. Mais en vrai, ils se mettraient en danger et peut-être que cette alchimie dans cette équipe serait mise en danger. Guillaume, on peut aussi se mettre en danger en suivant les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris On a Tort, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Donc Guillaume, post-season ou pas post-season pour les Phillies en 2024?
Ouais, post-season, définitivement post-season. Je suis pas sûr qu'ils arriveront à taper les Braves, parce que les Braves, c'est encore un niveau. Ces deux équipes, de toute façon, si elles sont les deux en forme, je pense qu'elles peuvent se tirer la bourre jusqu'à la fin. À la fin, je pense quand même que les Braves passeront devant. De toute façon, à partir du moment où les Phillies y sont en post-season, il peut se passer n'importe quoi. Donc voilà.
Bah moi écoute, je fais le back-to-back, Guillaume. N'écoutez pas les deux épisodes de demain, ça sert à rien. Je pense que les Phillies vont être l'autre équipe qui ira en World Series. Je m'explique, je pense qu'ils sont beaucoup trop près de ce Graal, de remporter ce truc-là, que moi j'ai même envie de dire que je veux voir cette équipe la gagner cette année. Parce que je pense que ce serait une juste récompense pour tous ces mecs qui ont été défoncés, un peu sous-estimés. Et je m'inclus dans ce discours-là. Et finalement, j'ai appris à les connaître et à les aimer. Je pense que les Phillies ne finiront pas premier de la division, mais je pense qu'en vrai, ils s'en foutent. Parce que ce qu'ils veulent, c'est gagner à la fin. Et que la manière dont ils arrivent à la fin de la bague a peu d'importance à leurs yeux. Et je pense que c'est ça aussi. Je pense que cette équipe va aller très loin. Si vous voulez aller loin, bah vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Alors Guillaume, on se réécoute demain?
Ouais, je crois que demain, en plus, c'est la dernière journée où les gens vont pouvoir nous réécouter.
Ouais, ils ont ce malheur-là. À demain.
Miguel bate, jaque mate. Miguel bate, jaque mate.
Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera.
Revise sus guías y acompáñenos esta noche de show.
Soy Miggy, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear, empujé otra carrera.